Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. On va commencer avec quelque chose de léger en introduction. Savez-vous quelle est la question la plus importante de la vie? J'entends pas beaucoup de réponses, c'est pas grave, on va la voir ensemble. Cette question, je l'ai posée à nos voisins, qu'on connaissait pas beaucoup. En fait, ils étaient là depuis 2-3 ans. Ils sont arrivés dans l'immeuble il y a 2-3 ans et on n'a visiblement pas les mêmes horaires. Vous savez, c'est des gens que vous découvrez qui sont là après longtemps. Et en fait, c'est juste parce que voilà, ils avaient un autre emploi du temps que le vôtre. Du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on les invite à la maison. On les invite à la maison, ils viennent, on passe une bonne soirée. On fait connaissance. Il y a ce moment où classiquement, on pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et chacun expose, présente ce qu'il fait dans la vie. Moi, je parle de l'Église, forcément, et du coup, le sujet de la foi arrive. On peut parler ensemble un petit peu du sujet de la foi. Et chacun parle de son background, de son histoire, la tradition dans la famille, la religion, le catholicisme arrive un petit peu dans la discussion. Et pour ceux qui ne me connaissent pas trop, on va dire que je suis pas la personne la plus subtile dans les relations. Des fois, je suis un petit peu franc et direct. Et alors, croyant saisir une bonne occasion, ça faisait 45 minutes qu'ils étaient là, ils n'avaient pas fini leur premier verre. On venait de passer au tutoiement. 2 jours avant, on s'envoyait des textos à base de cordialement, tout ça. Et alors, je leur pose cette question, la question la plus importante dans la vie. Qui est Jésus pour toi? Et croyez-moi, ils n'étaient pas prêts. À voir leur tête, ils n'étaient pas prêts à ça. Est-ce qu'il y a un piège? Est-ce qu'il y a une caméra? Qu'est-ce qu'il faut répondre? Une espèce de malaise. Alors on a mis un peu de légèreté après là-dessus. Et puis on a poursuivi la soirée, on a passé une bonne soirée, et puis on prévoit de se revoir dans quelques semaines. Donc c'est chouette. Mais on sent que sur cette question, il y a quelque chose de particulier. Cette question, elle n'est pas neutre, elle est lourde de sens. Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas ni Jésus, ni la Bible de près ou de loin, elle pourrait être neutre, cette question. Mais dans notre contexte, bien souvent, elle n'est pas neutre. Il y a un poids, il y a une charge derrière. Peut-être c'est une charge émotionnelle. Peut-être il y a quelque chose d'intime derrière. On n'ose pas trop parler de ça quand on n'a pas l'habitude. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'intime. En tout cas, il y a un truc qui est fondamental là derrière. Et pour cause, quand on comprend qui est Jésus, on comprend ce qu'il est venu faire. Et quand on comprend ce qu'il est venu faire, on comprend l'impact gigantesque que ça peut avoir pour nous. On est dans l'évangile de Marc, et l'évangile de Marc est construit autour de cette question-là. Si vous vous souvenez, on a fait... là, on est à la fin de l'année, on a commencé Marc en janvier, on va arriver avant décembre, on aura fini Marc. Dans 15 jours, ce sera le dernier. Et si vous vous souvenez, la première partie qui va jusqu'au chapitre 8, je fais appel à votre mémoire, la première partie qui va jusqu'au chapitre 8, Jésus est très démonstratif dans les miracles qu'il accomplit. Il a plein de messages, d'enseignements qu'il donne. Et on arrive au chapitre 8 où Jésus pose cette question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Quelle est la réponse de Pierre? Tu es le Messie. Exactement. On est au chapitre 8, on sait que Jésus est le Messie. On avance quelques chapitres, cette deuxième partie jusqu'à la transfiguration. La transfiguration, c'est ce moment où Jésus apparaît dans toute sa gloire, où Dieu révèle la gloire du Fils, et où Dieu, devant les disciples, on entend la voix directement de Dieu qui parle et qui dit, vous vous souvenez ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit Dieu au moment de la transfiguration? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc on sait que Jésus est le Messie, les 8 premiers chapitres. On sait que Jésus est le Fils de Dieu jusqu'à la transfiguration. Et on est dans la dernière partie où en fait Jésus va nous montrer tout ça. Il va nous montrer qu'il est le Messie. Il va nous montrer qu'il est le Fils de Dieu. Il va accomplir ce pourquoi il est venu. Et c'est ça dont on va parler ce soir. On est dans cette troisième partie. Et vraiment, l'évangile de Marc est orienté pour que nous puissions, nous, répondre à la question « Qui est Jésus pour moi ?» Vous pouvez ouvrir vos Bibles. On est dans Marc 15, au verset 21. Je vous laisse le temps de prendre le texte, je ne vais pas l'afficher. Pendant ce temps, je récupère de l'eau. Prenez le temps d'ouvrir vos Bibles. Si vous n'en avez pas, je pense qu'il y en a quelques-unes à l'arrière. Peut-être on peut distribuer. Si quelqu'un n'a pas de Bible, levez la main. Marc 15, verset 21, c'est la page 758 dans les Bibles blanches. On ne va pas lire tout d'un coup, on va lire au fur et à mesure. Et pendant que vous cherchez cette référence-là, on va se plonger ensemble, il y a 2000 ans, en arrière. Et il y a 2000 ans en arrière, hier soir, quelques heures à peine, Jésus était dans le jardin de Gethsémané. Et il était là à suer des gouttes de sang, tellement l'angoisse de ce qu'il avait devant lui l'effrayait. Il demande à ses disciples de veiller avec lui, ses disciples le lâchent en quelque sorte. Et alors les soldats romains arrivent. Et ils arrêtent Jésus. Jésus se retrouve devant les autorités juives, il y a un pseudo-procès, et là les choses deviennent sérieuses, et les disciples disparaissent. Et on a la dernière fois entendu que Pierre a même trahi Jésus directement. On se retrouve au petit matin, il y a quelques heures à peine, Jésus est devant les autorités juives ce coup-ci. La foule exige son exécution, exige sa crucifixion, et les autorités romaines, je dis juives peut-être, les autorités romaines cette fois-ci, cèdent et l'envoient pour la crucifixion. Il est 9 heures à peine, ou tout juste avant. Et Jésus est en train de porter sa croix, et je lis Marc 15, versets 21 à 32. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Il est 9 heures du matin, on assiste à une scène un peu surréaliste. Je ne sais pas ce que ça vous fait comme ressenti, comme émotion, ce texte. Mais on a un truc, on a le sentiment de quelque chose d'un peu absurde qui se passe devant nous. On a affaire à une foule en colère, on a affaire à des aveugles qui ne voient pas ce qui se passe devant eux. Et alors on va regarder en quoi ils sont aveugles. Ils sont aveugles déjà devant l'accomplissement des prophéties. Le texte en parle. Il y a des choses qui sont absolument claires dans l'Ancien Testament, avec des détails hallucinants. On a lu le psaume 22, je ne sais pas si vous avez noté tout à l'heure. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Ils ont distribué, ils ont joué mes vêtements. Ils partagèrent mes vêtements, ils les tirèrent au sort, mon habit. Le psaume 22, c'est des détails qui sont incroyables et qui ont été écrits des siècles avant. Et devant nous, on a qui ? Une foule avec des spécialistes de la loi. Les mecs, c'est les érudits de l'Ancien Testament. Ils connaissent tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Le psaume 22, ils le connaissent par cœur. Ésaïe 53, le serviteur souffrant, ils le connaissent par cœur. Il se passe devant eux exactement ce que ces textes disent des siècles avant. Ils sont les leaders du peuple qui attend le Messie. Ils ne voient rien. Ils sont aveuglés. Marc le souligne au verset 28, un accomplissement non reconnu. Ils sont aveuglés par l'accomplissement des prophéties qu'ils ne voient pas. Ils sont aveuglés aussi par l'innocence de Jésus, qui refuse de voir, évidemment. Dans ce verset, c'est la condamnation d'un innocent qui est notée aussi dans ce verset 28. Il a été compté au rang des criminels. Et l'innocence de Jésus, elle n'est pas approuvée. On le voit d'ailleurs quelques heures avant, quand Jésus se présente devant Pilate. Pilate, il a une foule en colère qui arrive, qui dit « crucifie-le, crucifie-le ». Il a quelqu'un qui est là et qui dit « mais pourquoi je dois te crucifier ? C'est quoi le motif ? » Et il est là, il échange, il essaye de comprendre, il n'y a rien qui ressort. Aucun motif valable. Du coup, qu'est-ce qu'on écrit au-dessus de sa tête ? Roi des Juifs. Ce n'est pas un motif de condamnation, roi des Juifs. C'est une moquerie. On a l'impression que la situation s'est emballée, qu'il n'y a plus rien sous contrôle. La foule, elle est aveuglée par... Ils n'arrivent pas à voir l'accomplissement des prophéties, ils n'arrivent pas à voir l'innocence de Jésus. Et en fait, ils sont tout simplement aveuglés par leur colère, leurs moqueries qui sont là. Il en a sauvé tant d'autres qui se sauvent lui-même, qui descendent de la croix et nous croiront. Alors si vous fréquentez des églises depuis longtemps, vous avez l'habitude d'entendre Jésus, il aurait pu faire ça et il aurait été sauvé, effectivement. Il aurait pu se sauver lui-même. Mais il l'a pas fait. Des miracles, Jésus, en fait, il en a fait pendant 14 chapitres avant. Il en a fait beaucoup. Il a nourri les gens qui avaient faim, des foules entières qui venaient écouter ce qu'il avait à dire. Il a guéri des malades. Il a marché sur l'eau. Il a ressuscité des morts. C'est plus le temps de faire des preuves, d'accomplir des miracles pour convaincre. Pourquoi Jésus ne s'est pas sauvé lui-même ? Pourquoi Jésus n'a pas saisi cette occasion pour convaincre ceux qui sont devant eux et qui demandent, les plus sceptiques des sceptiques, pourquoi est-ce qu'il n'a pas ? Il ne s'est pas sauvé lui-même. Je propose qu'on garde cette question, on y reviendra plus tard, et forcément elle est très connectée à la question « Qui est Jésus ?» De 9h à midi, on assiste à une mascarade, à un complot, absurde. Et cette scène, en fait, c'est la résultante de la présence de Jésus parmi les hommes. La présence de Jésus parmi les hommes bouscule, elle nous oblige à réfléchir, à se positionner, elle vient bousculer nos pensées. Imaginez, imaginez une population malade, tous malades à cause d'un virus. Tout le monde a le virus, tout le monde est contaminé. Et tout le monde s'évertue, déploie une quantité d'énergie, d'ingéniosité, de temps à masquer l'ensemble des symptômes de cette maladie. Si bien que certains pensent y arriver même, pensent ne plus être malades tellement ils arrivent bien à masquer les symptômes. Et là, il y a quelqu'un qui arrive avec le vaccin. Il a la solution au problème. Il y aura évidemment deux possibilités. Ceux qui se vaccinent et ceux qui ne se vaccinent pas. Je ne veux pas rappeler des souvenirs anti-vax, tout ça, mais au moins ça nous aide à comprendre qu'il y a deux possibilités, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas des gens qui étaient à demi-vaccinés. C'est soit tu es vacciné, soit tu n'es pas vacciné. Et alors pour adopter cette solution, adopter ce vaccin qui est proposé, on a besoin de deux choses. On a besoin premièrement de reconnaître qu'on est malade. Tant qu'on est à vouloir masquer les symptômes et se contenter de ça, il n'y a pas besoin de vaccin, effectivement, simplement ça ne corrige pas le problème qu'il y a à l'intérieur. Le deuxième point dont on a besoin pour que ça fonctionne, on a besoin de faire confiance à celui qui amène le vaccin. Et ça, on l'a vu quand il était question de se faire vacciner ou pas, il y avait une notion de confiance. Est-ce qu'on a confiance en celui qui amène le vaccin ? On ne peut pas rester neutre. Soit on est aveugle, et on rejette Dieu. C'est ce que fait cette foule. Cette foule rejette le Fils de Dieu, rejette Jésus. Soit on est aveugle, on rejette Dieu, et un jour ce sera trop tard. Soit on le reconnaît comme le Fils de Dieu. Jésus, il a quoi autour de lui ? Il a deux brigands, l'un qui le reconnaît et l'autre qui le rejette. Il est midi, Ça fait 3 heures que Jésus est accroché à cette croix à agoniser. Et je lis le verset 33. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Simplement ce verset. Le paysage change. On est en plein milieu de la journée, il fait nuit d'un seul coup. Ce qui se passe ici est absolument unique dans toute l'histoire de l'humanité. Et dans la Bible, quand les ténèbres, quand on voit apparaître les ténèbres, l'obscurité, c'est rarement bon signe, ça ne parle pas de sujets joyeux en général. C'est souvent soit le péché, soit la colère de Dieu, et bien souvent c'est les deux ensemble. Ésaïe 13 nous parle de la colère de Dieu qui attend les hommes au jugement final. Voici ce qu'il dit. Il parle de la colère et de l'ardente fureur qui transformera la terre en désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface, que le soleil et les étoiles ne feront plus briller leur lumière. Dieu, il n'est pas simplement pas content à ce moment-là. Il est dans une ardente fureur. Il sera dans une ardente fureur au moment du jugement final. À ce moment-là, il est aussi dans une ardente fureur. On parle de jugement. Alors, contre quoi Dieu est-il en colère? Eh bien, Dieu, il est en colère parce que nous lui avons tourné le dos. Il est en colère parce que nous avons fait notre déclaration d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Lui qui voulait être en relation avec nous, on l'a rejeté. On a rejeté un Dieu bon et aimant. Et en ayant fait ça, on a commis tout un tas de choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché, la rébellion, plus l'ensemble de nos transgressions, c'est ce qu'on appelle le péché. Et c'est contre ça que Dieu est en colère. On a tous ce virus-là à l'intérieur de nous. On peut faire ce qu'on veut pour masquer les symptômes. On a tous ce truc-là. Mais à ce moment-là de l'histoire, Dieu est en colère contre les péchés de ceux qui n'ont pas rejeté Jésus. Dieu est en colère contre ceux qui ont reconnu Jésus, contre les péchés de ceux qui ont reconnu Jésus. En parlant du peuple de Dieu, en Ésaïe 53, on lit « L'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes. Les fautes des enfants de Dieu sont transférées sur Jésus. » Et alors, Dieu le Père est en colère contre ces péchés-là. La faute de ceux qui rejettent Dieu plane toujours sur eux, la colère de Dieu plane toujours sur eux, ceux qui rejettent Jésus. Ceux qui reconnaissent Jésus, la colère de Dieu se situe à ce moment-là. Alors, après le procès absurde de Jésus, de la part des hommes, qui aboutit au rejet de Jésus, on a maintenant le procès nécessaire du Père qui aboutit aussi au rejet de Jésus. Un Dieu parfait, il a une justice parfaite sinon il y a un bug. Une transgression dans une justice parfaite implique une punition. On n'aime pas trop cette idée en général quand il s'agit de notre punition. Mais s'il s'agit de la punition de celui qui nous a fait du mal, on est un peu plus d'accord avec cette justice-là. S'il s'agit de la punition de celui qui a fait du mal à quelqu'un qu'on aime, nos enfants, notre conjoint, là on devient très d'accord avec la punition en question. Est-ce que vous seriez d'accord avec un Dieu laxiste ou je m'en foutiste vis-à-vis de gens qui auraient fait du mal aux gens que vous aimez? Je crois pas. On a besoin de cette justice-là. Alors, le Dieu lent à la colère se met en colère. Et pendant 3 heures, il ouvre les vannes de son ardente colère sur son fils. Le face-à-face le plus terrible de l'histoire. Dieu le Père regarde son fils et il voit un tas d'immondices. Il voit le péché de chacun qui a placé sa confiance en Jésus. Il voit le rejet de chacun de nous d'un Dieu bon et aimant. Il voit ton mensonge, il voit ta convoitise, il voit ton égoïsme, ton orgueil. Il voit chaque fois que tu t'es mis en colère. Chaque fois que tu as fait du mal à quelqu'un, chaque fois que tu étais préoccupé par toi, tu étais prêt à écraser les autres, ton conjoint, tes enfants, tes amis, ta famille, tes collègues. Il voit ce que tu fais en cachette, ce que tu n'oses même pas évoquer à voix haute, tellement tu en as honte. Il voit ce que tu nourris dans tes pensées. Il voit ce que tu entretiens comme idole. Toutes ces situations où tu t'es arrangé pour que ce soit toi qui sois au centre. Il voit aussi tout ce que tu as raté, tout ce que tu as omis. Il voit ce que tu n'as pas fait exprès de faire. Et il voit aussi tout ce que tu as subi. Toutes les fois où ce n'était pas toi qui étais à l'origine, qui n'étais pas directement fautif, les maladies, les souffrances, les meurtrissures, c'est aussi des conséquences de notre rejet de Dieu qui sont là. Il voit ton péché, il voit mon péché. C'est toi et moi qui devrions être sur cette croix. Pendant ces 3 heures, Jésus, chargé de nos fautes sur ses épaules, fait face au Père. Le Père et le Fils, voyant les conséquences de notre rejet, ils n'ont pas pu accepter que nous soyons rejetés à notre tour, que nous subissions nous-mêmes cette colère. Alors, par amour pour nous, le Père détourne la colère qu'il avait contre nous, contre son Fils. Par amour pour nous, le Fils subit de plein fouet la colère du Père. Et le Père rejette le Fils pour nos péchés. Il est 3 heures. Le Père a jugé le Fils et il a abandonné. Je lis les versets 34 à 41. À 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani !» Ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, « Voici qu'il appelle Élie !» Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et il la fixa sur un roseau et lui donna à boire en disant, « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le jeune, et de José, ainsi que Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Jésus est abandonné, c'est la première fois qu'il est seul. Depuis toute éternité, le Fils est uni au Père, dans un amour parfait. C'est la première fois qu'ils sont séparés. C'est la première fois qu'ils voient la colère de Dieu en face comme ça. Il connaît le prix de la justice parfaite de Dieu. Il a subi dans son corps toutes ces meurtrissures. Alors il se laisse mourir par amour pour nous. C'est un événement unique dans l'histoire qui rend Dieu accessible. Dans le texte qu'on vient de voir, je ne sais pas si vous avez noté, il y a cette histoire de voile qui se déchire. Plutôt qu'un voile, je pense que c'était plutôt un épais rideau. Je ne pense pas que ce soit un voile léger comme on peut l'avoir en tête. Et pour comprendre un petit peu ce détail du texte, on a besoin un petit peu de mieux comprendre l'intention de Dieu à habiter parmi les hommes, l'intention de Dieu qu'il y a dans la représentation du temple également. Alors pour ça, on remonte très très loin à l'origine, où Dieu crée un monde, le jardin d'Éden, qui, d'une certaine manière, représente un temple, où la présence de Dieu est avec les hommes sont avec Dieu, ils cohabitent ensemble. Et dans ce temple originel, Dieu et les hommes cohabitent, et au moment où les hommes rejettent Dieu, le Dieu trois fois saint ne peut pas rester à cohabiter avec des hommes qui le rejettent, avec des hommes déchus. Et alors, que fait Dieu ? Il les chasse du jardin et il ferme le temple. La séparation, elle est fatale. On fait un gros saut dans l'histoire, on se retrouve au moment où le temple commence à apparaître. Vous savez qu'il apparaît d'abord avec Moïse et le tabernacle, c'est d'abord une tente, et puis ensuite c'est un temple en dur avec David et Salomon. Et dans ce temple, il y a le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là où sont les tables de l'Alliance et c'est là où Dieu est, où la présence de Dieu est. Dans ce lieu très saint, le grand prêtre ne pouvait rentrer qu'une fois par an pour venir y présenter les sacrifices, les offrandes du peuple, après s'être purifié. Et chaque année, le grand prêtre venait dans ce sanctuaire une fois par an pour offrir et présenter devant Dieu ses offrandes. Les Juifs qui montaient à Jérusalem en pèlerinage, qui allaient au temple pour être dans la présence de Dieu, ils restaient derrière le voile, ce voile qui cachait le sanctuaire, ce lieu très saint. Il n'y avait pas accès. La séparation entre Dieu et les hommes était toujours là. Quand le Fils de Dieu vient habiter parmi les hommes, quand il offre ce sacrifice ultime, il n'y a plus besoin de grands prêtres qui, année après année, rentrent dans le sanctuaire pour offrir des offrandes. Jésus offre le sacrifice qui paye le prix de la colère de Dieu dans le sanctuaire et ouvre accès et réconcilie Dieu avec ses enfants. Hébreux 19, 20 nous dit « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son propre corps. Le corps de Jésus déchiré ouvre l'accès au Père. La manifestation dans le temple, le lieu très saint où Dieu était calfeutré derrière ce voile ouvert, et nous sommes réconciliés avec le Père. Jésus n'allait pas descendre de la croix, surtout pas. Jésus n'allait pas descendre de la croix, il voulait nous réconcilier avec le Père. Il voulait que nous soyons en paix avec le Père. Toutes les fautes qu'on a dit tout à l'heure, toutes les fautes que tu connais dans ta tête, Jésus les prend. Ta culpabilité, il la prend. En échange, il te donne sa justice pour que tu puisses être réconcilié avec le Père, être en paix avec lui. On parlait tout à l'heure de l'absurdité de la situation. Marc remet une couche. Regardez le verset 39, il est question de ce centenier aussi. Là où tous les spécialistes de la loi n'y voient rien, c'est un Romain qui comprend. Ce Romain, il a certainement eu des dizaines d'exécutions par crucifixion devant lui. Il sait à quoi ça ressemble une crucifixion. Il voit ce qui se passe, il voit les événements, il voit les ténèbres, il voit un Jésus qui meurt beaucoup plus tôt que prévu. Normalement, ils étaient censés mettre beaucoup plus longtemps à mourir que ça, les crucifier. Alors ce centenier romain conclut, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Pourquoi ça change tout de reconnaître Jésus? Pourquoi cette question est si importante? Les amis, il y a deux camps. Il y a ceux qui rejettent Dieu, et pour qui la colère de Dieu plane toujours. Et il y a ceux pour qui Jésus a été rejeté, et pour qui la colère de Dieu n'est plus là. C'est communément admis que Dieu est un Dieu d'amour. On a un peu plus de mal à se dire que Dieu est un Dieu de justice aussi. Et quand on parle d'un amour parfait, d'une justice parfaite, on ne sait pas trop comment les réconcilier. Une justice parfaite, ben quand il y a transgression, il y a punition. Un amour parfait, quand il y a transgression, il y a pardon. Comment on réconcilie ces deux trucs? Notre cerveau ne sait pas faire ça. Il y a 2000 ans, à 3 heures de l'après-midi, Dieu accomplit ce miracle. Pour nous, par amour pour nous. Alors pourquoi est-ce que Jésus ne s'est pas sauvé lui-même? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas saisi cette occasion pour convaincre les plus sceptiques des sceptiques? Il y avait une occasion en or là devant lui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça? Il y a en tout cas deux raisons. La première raison, c'est qu'à un moment, c'est trop tard. À un moment, c'est trop tard. Et là, on est dans le trop tard pour la foule qui le rejette. À un moment, il est question de cœur endurci. Et crois-moi, t'as pas envie de connaître la colère de Dieu, telle qu'on l'a vue ici. Ce qu'on vient de lire là, ce qu'on vient d'entendre, ça ressemble fortement à ce qu'on appelle l'enfer, la colère de Dieu, le rejet de Dieu. T'as pas envie de vivre ce truc-là, crois-moi. Mais Dieu le fera. Si tu ne reconnais pas Jésus, si tu ne reconnais pas qui est Jésus, tu cours un grand danger. La deuxième raison pour laquelle Jésus ne s'est pas sauvé lui-même, c'est parce qu'il t'aime. Tu trouveras personne sur cette terre qui t'aime autant. Il est sur cette croix par amour pour toi, pour payer le prix fort. Et la bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Les épaules de Jésus qui portent notre péché n'ont pas de limite. J'ai insisté pour dire que à un moment, c'est trop tard. C'est vrai, à un moment, c'est trop tard. Mais aujourd'hui, tu peux encore poser la question. Qui est Jésus pour toi? Tu peux encore répondre à cette question. C'est la question la plus importante de ta vie. La réponse, je le sais, je le sens pas, ça m'inspire pas, c'est pas suffisant au regard de l'éternité. C'est pas suffisant au regard de la colère de Dieu, et c'est surtout pas suffisant au regard de l'amour de Dieu. Lâche pas cette question. Si c'est trop frontal, comme peut-être pour mes voisins, alors réfléchis à la question, pourquoi est-ce que Jésus n'est pas descendu de cette croix? Qu'est-ce que ça change pour toi? Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas descendu de cette croix? Et si tu n'es pas en mesure de répondre là maintenant, passe du temps ce soir pour répondre à cette question, pour relire ce texte et chercher. Et passe du temps demain soir si tu n'as toujours pas la même réponse. Et encore le lendemain, tu ne peux pas rester avec cette question ouverte. Et si tu te sens aveugle, ça arrive. J'ai rencontré des gens qui me disaient « j'aimerais bien, mais j'arrive pas ». Si tu te sens aveugle, alors crie à Dieu. Crie à Dieu et il t'ouvrira les yeux. Tu vas pas rester aveugle. Crois-moi, Dieu ouvrira tes yeux. Et si tu arrives à la conclusion que Jésus est le Fils de Dieu, alors repens-toi. Place tes péchés sur Jésus. Repens-toi de tes fautes et Jésus t'accordera sa justice. Il prendra avec joie la colère de Dieu qu'il a déjà subie pour toi. Et tu seras réconcilié avec le Père, en paix avec le Père. Et enfin, les amis, dernière exhortation, revenez dans 15 jours. C'est pas la fin de l'histoire. On va prendre la scène. Je pense pas qu'il y ait besoin d'introduction supplémentaire pour la scène. Si tu as répondu à la question « Qui est Jésus pour toi ?» Si la réponse à cette question, ça ressemble à « Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Seigneur. Il a payé la colère de Dieu, il a détourné la colère de Dieu. Je suis en paix avec le Père. » Si c'est comme ça que tu réponds à cette question-là, alors bienvenue au repas du Seigneur. »